Canyou présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Le 30e anniversaire. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Aux Champs-Élysées pour célébrer le 30e anniversaire des États-Unis d'Europe. C'est le 30e anniversaire des États-Unis d'Europe et présidé par le président de la République des États-Unis, le Führer Frank Herz, et le président de la province France, M. Franck Keller. On entend les différents hymnes des différents États et des pays invités.
Thank you. 3. Serrez-vous un peu.
Le défilé, la foule des badauds se dissout. Philippe et Alban, qui avaient assisté au défilé, essayent de se faufiler. Que de monde! Je ne sais pas si nous allons arriver à l'heure pour le déjeuner. Oui, dit Alban. Les cérémonies du 30e anniversaire sont vraiment une réussite. Tu as vu tous ces chefs d'État? Hier, à Berlin, les cérémonies étaient encore plus grandioses. Tu les as vues à la télévision? Oui. Et je crois que nous avons de quoi être fiers d'être européens. Depuis que l'Europe a été faite et fondée par le Führer Hitler, nous sommes en paix. Et dire qu'avant, l'Europe était constamment en guerre fratricide entre eux. Mais ils avaient une excuse. C'était les Juifs, les Métèques, de toutes sortes, qui pour des raisons économiques formaient ces guerres. Depuis que nous les avons exterminés, nous sommes en paix chez nous. Parce que les Américains ont constaté nos succès, ils ont pratiqué les mêmes moyens que nous pour supprimer les leurs. Depuis que la population européenne s'est assainie, nous sommes devenus la première puissance mondiale, avant l'Amérique même. Et grâce à nos fusées, nous deviendrons la première puissance universelle. N'oublie pas que le premier homme qui a marché sur la Lune, c'est nous, les Européens. Ils réussissent à se dégager de la foule. Alban de Gaulle du Froid est arrivé devant l'allée de sa maison. Avant d'entrer dans son immeuble, il tend la main à son ami et lui demande « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Nous n'avons pas cours. » Philippe lui répond « J'ai une corvée, je dois aller prendre à la gare ma cousine. Elle vient passer quelques jours chez nous. » « Elle est bien ta cousine ?»« Je ne sais plus. Elle doit être très quelconque. Elle sort d'un couvent de province française. » « Allez, je me sauve. Au revoir, à demain Henri IV. » Philippe court pour rattraper le retard. Ses parents habitent dans un immeuble, boulevard Saint-Germain. Un domestique lui ouvre. Il retrouve sa mère et son père. « Excusez-moi du retard. » Sa mère lui dit.
« Ce n'est pas grand, mon petit. Nous avons bien vu à la télévision que les cérémonies étaient plus longues que prévues.
Je me lave les mains et je vais vous rejoindre. » Il va dans sa salle de bain, se laver les mains et se donner un coup de peigne. Et va rejoindre ses parents dans la salle à manger. L'après-midi, il est sur le chemin de la gare de Lyon pour aller chercher sa cousine. Ses parents ne peuvent aller la chercher à cause de leur travail. Ils tiennent une maison d'édition spécialisée sur la littérature des écrivains français. Philippe a mis son costume beige, chemise blanche et cravate à cajou. Un délicieux vent de printemps fait bouger sa cravate et emmêle sa tignasse de cheveux noirs. Il est très blanc de peau. Les traits du visage sont restés enfantins pour ses 16 ans. C'est dû à son petit nez et à ses lèvres légèrement entrouvertes. Il est grand pour son âge, mais bien fait. Il est arrivé à la gare. Prend un ticket de quai, car la cousine doit avoir des bagages. Il y a foule à la gare. Au milieu des voyageurs se trouvent des soldats qui vont et viennent pour prendre des trains dans toutes les directions. Les cérémonies sont finies pour la province française. Ils vont partir pour la province anglaise qui elle aussi va fêter le 30e anniversaire de l'Europe unie. Philippe Leroy essaye de se diriger vers les quais où va s'arrêter le train. Le train qui vient de Lyon. Pour se faire reconnaître, Philippe a épinglé sur la pochette de son costume un papier où est marqué son nom. Enfin, le train arrive. Enfin, le train est arrivé. Le voyageur commence à descendre. Philippe va d'une partie à l'autre pour voir s'il ne voit pas sa cousine. Mademoiselle Agnès Dufour. Mademoiselle Agnès Dufour. Mademoiselle Agnès Dufour. Il crie son nom. Toujours pas de cousine. Les voyageurs semblent être presque tous descendus. Une main tape sur son épaule. Il se retourne. Une jeune fille, aussi grande que lui, mince, cheveux longs, blonde, qui ondule, le visage rieur. Elle porte une robe bleue à ses pieds, une valise et un sac de voyage. Bonjour cousin, vous ne me reconnaissez pas ? Pourtant moi je vous reconnais. Bonjour cousine, j'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, merci. Vous ne faites pas la bise? Entre cousins, cela se fait? Oui, bien sûr. Il lui donne un baiser sur la joue, lui prend ses bagages et se dirige vers la sortie de la gare. Que de monde! C'est dû aux cérémonies du 30e anniversaire. À la sortie de la gare, ils prennent un taxi.
comme je suis heureuse d'être à Paris. Ça doit être merveilleux de vivre dans une ville pareille, la capitale des arts européens. Il paraît que c'est la ville la plus gaie de toute l'Europe. Je veux tout voir, tout entendre. J'ai aussi des tas de choses à acheter ce soir du pensionnat et je n'ai rien à me mettre. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ? Philippe, dans la taxi, l'a bien examinée et la trouve à son goût. Cela aurait été une corvée pour lui. Il déteste faire les magasins avec sa mère. Arrivée, la bonne lui présente sa chambre. Philippe s'est excusé de l'absence de ses parents, mais lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'ils arrivent. En attendant, elle est invitée à prendre le thé qu'ils prennent dans le salon. Les parents de Philippe arrivent. La mère accourt souhaiter la bienvenue à Agnès. La jeune fille voit que son fils lui ressemble. Le père est plus grand et plus gros, il a dans les 45 ans et sa mère 40. Madame Leroy a toujours pensé à Agnès comme si c'était une jeune fille qui avait besoin d'aide et d'appui, comme la jeune fille pauvre de la famille. Les grands-parents d'Agnès sont morts durant la dernière guerre. Une mort étrange que l'on ne parle pas devant les enfants. Puis, les parents sont morts d'un accident de voiture. Mais de cela aussi, la famille n'en parle pas. C'est Madame Leroy, Adeline, qui s'est occupée de son éducation. Mais de loin, la fille n'a jamais habité avec eux. Elle disait toujours que la province était mieux pour elle, qu'il y avait moins de risques que dans une capitale comme Paris. Philippe est retourné au lycée Henri IV. Durant la récréation, il a retrouvé Alban. Alban est blond, grand, le visage tout aussi enfant que lui. Il a le même âge. Plus tard, il aimerait être commissaire dans les affaires criminelles. Philippe et Alban marchent dans la cour. Alors, comment est-elle ta cousine ? Elle est bien, très bien. Elle te plaît tant que ça ? Oui, je la trouve très bien. Belle aussi. Et elle, comment te trouve-t-elle ? Je ne sais pas, mais elle veut que je l'accompagne de partout. Agnès Dutour est dans sa chambre. Elle trouve Philippe beau garçon et pas du tout prétentieux. Lorsque Philippe a fini ses cours, il va avec Agnès faire les magasins. C'est lui qui porte les paquets. Adeline a donné à Agnès une grosse somme pour qu'elle puisse faire sa garde-robe. puisqu'elle n'a pas le temps de s'en occuper. Le samedi, Philippe l'emmène danser chez des camarades ou dans des boîtes.
Il y a plein de diamants aussi. Et aussi un divan, une écharpe très jolie et un jeu d'échecs, tout en or et en ivoire.
Des échecs.
Et puis encore quelques petites choses.
Quoi donc ?
Ah bien, de la pâte pour les dents.
Certains dimanches, la famille Leroy va dans leur maison de campagne qui se trouve en Normandie. Un jour qu'il faisait de l'orage, ils décidèrent de visiter la maison de campagne de fond en comble. Après avoir visité les pièces du haut, ils montèrent au grenier. Là, ils trouvèrent des malles pleines de vêtements, de livres. Agnès prend un livre. Qu'est-ce que c'est écrit ? C'est quelle langue ? C'est du français. Avant, chaque province était un petit état et avait sa langue. Agnès feuillette le livre. Il demande. C'est lire le français. Au moins, tu sais les langues mortes, à part l'allemand, l'anglais et l'espagnol. C'est quoi comme livre ? Il regarde le livre et dit : C'est un livre interdit. Il a été édité en cachette dans les années 50. C'est un roman de Roger Martin Dugard, le lieutenant-colonel de Mort-Mort. Il parle de quoi ? Ça dit des horreurs sur l'Allemagne. C'est un auteur dépravé, un genre de marquis de Sade. Elle repose le livre. En remettant le livre en place, elle prend un paquet de lettres attachées avec un ruban rose. Ce doit être des lettres d'amour. Comme les personnes devaient être heureuses de recevoir ces lettres. Juste au moment où elle repose les lettres dans la malle, il lui prend le poignet. Tu aimerais toi aussi recevoir des lettres comme celle-là ? Elle fait oui de la tête. Ici c'était moi qui les écrivais. Elle ne répond pas. Ils restent un moment l'un en face de l'autre, sans bouger. Ils entendent l'orage.
porte du grenier, la main dans la main. Les jours passent. Philippe et Alban sont tous deux assis dans le préau de la cour. Tu lui as toujours rien dit et tu l'aimes ? Oui, je l'aime. Je l'aime tellement que je n'endors plus. Mais je ne sais pas comment le lui dire. J'ai l'impression qu'elle sait que je l'aime. Qu'elle le sache, ça me rend gauche. Ma mère veut la faire partir à la fin du mois. La renvoyer à la campagne. Elle dit que c'est mieux pour elle et pour nous. Je ne comprends pas ma mère. Elle cherche toujours à l'éloigner. Pourtant, elle fait partie de notre famille.
Ouais, Notre-Dame, bonjour. Alors, le petit Quentin, on joue les terreurs ?
Qui sont à la campagne vient en visite le jeune notaire du pays. C'est André Père. Il est 30 ans, il est grand, un peu fort. Et le roi l'aime bien. Il est présenté à Agnès. La jeune fille lui fait fort impression. Adeline s'en aperçoit. Elle se dit que ce serait une bonne affaire de casier Agnès. Elle l'invite à chaque fois qu'ils sont là-bas et attend qu'ils se déclarent. Agnès aime mieux Philippe, mais n'ose rien dire parce qu'elle est la jeune fille pauvre. Philippe souffre beaucoup de voir un autre faire la cour à Agnès, mais son âge l'empêche d'agir. Après-midi, qu'il se promène seul dans la campagne, il voit au loin Agnès et André marcher côte à côte. Il l'a prise par la taille. Cette vision le rend très malheureux et se met à courir comme un fou. En courant, il a fait du bruit. Agnès a cru le reconnaître. Je dois rentrer, comme vous voudrez, Agnès. Et ils vont chercher leur monture. Et partent en direction de la maison. Arrivée, elle demande à André de la laisser. Elle rentre. Elle est trop troublée. Elle veut être seule, ne voir personne. Elle monte les escaliers qui mènent au grenier. Pourvu que je me sois trompée. Mon Dieu, faites, est-ce que ce ne soit pas lui ? Je vous en prie. Pauvre Philippe,
Que va-t-il penser? Ah, s'il pouvait se déclarer. Peut-être que... Oh, sûrement qu'Adeline accepterait ce mariage. Elle arrive au haut des escaliers, tout essoufflée. Elle entend le battement de son corps. Elle ouvre la porte du grenier. Mon Dieu, veut-à ce qui se déclare. Avec la nouvelle loi et une dispense, nous pourrions nous marier l'année prochaine. Pendant ce temps, Philippe court, fuit dans la forêt. Il ne sait pas où il va. Sa boue s'échesse. Il recherche malgré lui une fraîcheur. Le chemin le mène vers quelque chose d'argenté et lumineux. Il ne sait ce que c'est. La lumière du soleil qui l'aveugle, sa course. Il s'y jette. Il sursaute. Cette fraîcheur, c'est l'eau d'un lac. Il vient de s'y jeter tout habillé. Cela lui fait du bien. Il sort du lac trempé. Et se met à courir jusqu'à la maison. Il court jusqu'à la maison. Arrivé, il a besoin de solitude. Ses vêtements sont trempés, ses chaussures ont de l'eau, ses pas font sur le sol et le tapis des traces, mais il ne sent pas l'eau. Il monte les étages. La maison semble vide. Arrivé au dernier étage, il ouvre la porte du grenier. Agnès est assise sur un coffre. Le bruit de la porte la fait tressaillir. Elle aperçoit Philippe qui, en la voyant, veut s'enfuir. Voyons, Philippe, ne vous enfuyez pas. De quoi avez-vous peur? Philippe s'approche d'elle, l'air triste. Elle lui dit, vous aussi vous aimez la solitude? Eh bien, vous voyez, il m'arrive quelquefois de venir passer un moment ici. Je me sens en sécurité au milieu de ces vieilles choses. Et puis, on peut y lire tranquillement sans que personne vous demande ce que vous lisez. Mais, vous êtes trompé? Que vous est-il arrivé? Philippe rougit. Bien, je... Gardez votre secret. Ici, chacun est libre. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut vous changer. Tout à coup, une idée lui vient. Tenez, déshabillez-vous derrière ce paravent. En attendant que vos vêtements sèchent, je vais vous trouver quelques vieilles nippes. Elle voit qu'il hésite. Vous ne pouvez pas vous changer dans votre chambre si vos parents vous voyaient trempés comme cela. Philippe, résigné et commençant à trembler de froid, va se changer derrière le paravent. Pendant ce temps, elle ouvre les malles. Décidément, je ne trouve que des vêtements féminins. Il n'y a aucun vêtement masculin. Rien que des robes. Que faisons-nous? Tant pis, vous en mettrez une. Cela n'a aucune importance, nous ne sommes que nous deux. Philippe sort du paravent rouge de honte, en robe blanche. Agnès est surprise. Il est très très fin et délicat. Ses cheveux sont en broussaille. « Venez. Mais qu'avez-vous à rester ainsi? Allez, ne faites pas l'enfant. Asseyez-vous sur ce coffre. Je vais vous coiffer. » Philippe va s'asseoir. Elle enlève un petit peigne de ses cheveux et se met à le coiffer. Quelle idée de se mettre dans cet état! Voilà, c'est fini. J'ai fini de vous peigner. Allons, debout! Laissez-moi m'asseoir. Philippe se sent très triste. Il a envie de pleurer, de se blottir. Agnès s'assoit sur le coffre. Il s'est assis à ses pieds et met sa tête sur ses genoux. Agnès tremble, mais il semble si fragile. Et puis avec cette robe, il ressemble à une petite fille. Machinalement, elle lui caresse ses cheveux. Ils sont très doux. Ils sont tous deux au milieu de la pièce, pas de bruit. Tu sais qu'André m'aime ? Philippe tressaille. Il ferme les yeux et enfonce sa tête dans la robe. Agnès en est tout émue. Il m'a demandé un mariage. Il faut que je lui donne une réponse. Philippe reste toujours la tête dans la robe. Il relève la tête et croit voir en face de lui l'image de deux jeunes filles. C'est l'image que lui donne d'eux une vieille glace. Il se tourne vers Agnès. « Je ne veux pas que tu te maries avec André. Je t'aime. Je t'aime. » Il se penche vers elle. Elle lui donne un baiser. Et elle se lève. Et dit « Il se fait tard, nous devons descendre. » On n'y voit presque plus rien. Elle fait quelques pas vers la sortie. Des prises de vertige. Juste au moment où elle va ouvrir la porte, il la rattrape, la prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. Elle ne se défend pas. La douceur du baiser, ce corps contre elle, cette main se mettant à la caresser. Le sexe bande, il a chaud, il la force à se coucher à terre. Sans bruit, ni cri, car elle accepte, il la déshabille. Il fait presque nuit. Le temps passe. Agnès est toujours avec les Leroy. Philippe poursuit toujours ses études à Henri IV. Tout semble normal et sans histoire. Agnès n'a pas osé dire à André. Elle n'a pas osé lui dire non. Elle lui a seulement dit qu'elle voulait réfléchir. Depuis le jour du grenier, elle et Philippe sont très intimes et se voient le plus souvent possible seuls. Ils restent amants. Malheureusement, Agnès est enceinte. Dans les États-Unis d'Europe, la pilule, les contraceptifs et les avortements sont interdits. Elle le dit à Philippe. Ce n'est pas grave, nous nous marierons avant avec une dispense. Je vais en parler à mes parents. Et le soir même, Philippe demande un entretien à son père. Ils sont dans son bureau. Le père est assis à un fauteuil à côté du bureau. Philippe est debout. « Je t'écoute. »« Eh bien voilà, père, j'aimerais épouser Agnès. »«
C'est impossible. Elle est ta cousine et vous n'êtes pas l'âge. »«
Mais avec une dispense, je peux et puis
Il le faut. Mais elle est pauvre. Et puis c'est impossible. Je ne veux pas.
Père, je suis malheureusement... Pour vous, je suis obligé de l'épouser.
Elle est enceinte. Quoi ? Et de qui ?
De moi.
Comment le sais-tu ?
Nous sommes amants.
Espèce de petit con ! Tu n'en aurais pas pu faire attention ? Elle l'a fait exprès, cette garce. Mais je ne veux pas que tu te maries avec elle. Je ne donnerai jamais mon accord.
Je m'en passerai.
C'est ce que nous verrons. En attendant, va te coucher.
Et le fils sort en claquant la porte.
Il faut agir vite, très vite. Ce con est capable des pires folies.
Il garde son carnet d'adresse. Prend son téléphone, fait un numéro.
Allô ? Je suis bien chez le ministre Barthes ?
Oui.
Je suis monsieur Hugues Leroy. J'ai des ennuis. J'aurais besoin d'un service. C'est très urgent. Puis-je vous voir ce soir ? Merci. À tout de suite.
Il sort de sa maison et prend sa voiture. Il a arrêté sa voiture devant l'hôtel Matignon. Il dit au garde qu'il a attendu. Le garde téléphone pour savoir si on veut le recevoir. On le mène dans le bureau du ministre. Le ministre est assis à son bureau. C'est un homme de 50 ans, grand, maigre, chauve et porte un monocle.
Monsieur le ministre, je vous en prie, asseyez-vous.
Il raconte ses problèmes de famille.
Oui, je vois, c'est très ennuyeux. Ce n'est pas comme avant. J'ai un poste très important maintenant. C'est la troisième fois que vous avez des ennuis. La première fois, c'était facile. Nous étions en guerre. C'était facile de faire disparaître les grands-parents de cette petite fille. Mais pour la deuxième fois, nous avons été obligés de stimuler un accident de la route. Maintenant, il faut s'occuper de la fille. Là, je ne peux rien. Absolument rien faire. Je suis obligé d'agir d'une façon légale, vu mes fonctions, vous comprenez. Ah, c'est compliqué lorsque l'on a du sang juif dans une famille. Surtout, vous éloignez votre fils pour quelque temps.
Oui, monsieur le ministre.
Bien, j'espère que je n'aurai pas affaire à un ingrat. Non, monsieur le ministre, l'on m'a amené en ce moment des... calices et des statuettes de grande valeur, même de valeur inestimable. Vous viendrez faire votre choix, monsieur le ministre.
Toute la nuit, Philippe ne peut dormir.
Si mon père ne veut pas que l'on se marie, je me sauverai.
Le lendemain, il est au lycée. Après une heure de cours, il est appelé par le proviseur.
Vous devez vous rendre chez vous. C'est très urgent.
Philippe se dépêche de rentrer à la maison. Il pense que quelqu'un est malade. Trouve au salon son père et deux agents.
C'est votre fils ?
Oui.
Vous êtes Philippe Leroy ?
Oui, monsieur.
Jeune homme, nous avons reçu l'ordre de vous amener au camp de recrutement 16. Vous devez faire un séjour aux jeunesses européennes en Allemagne.
Votre séjour est de 2 ans.
Mais je n'ai rien fait. Je ne veux pas.
Vous y êtes obligé, c'est la loi.
Père.
Obéis, je ne peux rien.
Philippe se tait une minute. Il se dit qu'il n'a qu'à obéir.
Mais Agnès, il faut qu'elle m'attende. Avant de partir, je veux dire au revoir à Agnès.
Et sortir avec ta mère. Allons, jeune homme, il faut nous suivre. Nous n'avons guère le temps.
Philippe embrasse son père et part. Il est mené dans une voiture. La voiture s'est arrêtée devant une caserne qui sert aux jeunesses européennes. Là, il passera une visite médicale, on lui donnera une tenue qui ressemble à celle des militaires. Et il partira pour l'Allemagne en train, où il vivra dans une caserne, perfectionnera ses études, la vie civique, la discipline. Les jeunes qui vont aux jeunesses européennes sont désignés par l'État européen. C'est en plus de leur service militaire. Agnès, à 9h, s'est levée. Philippe venait tout juste de partir. Elle a fait sa toilette, s'est habillée et pris son petit déjeuner. Dans la salle à manger, la porte de la salle à manger s'ouvre. C'est son oncle et deux agents. Elle reste assise.
Mademoiselle, vous êtes bien Agnès dite du Tour.
Oui, monsieur.
Je vous arrête. Vous avez dans votre famille du sang juif. C'était votre grand-mère. Ne cherchez pas à résister. Suivez-nous.
Elle regarde son oncle, qui la regarde droit dans les yeux. Elle a compris. Elle se lève et part. L'après-midi a été menée en train pour un camp en Sibérie où elle travaillera dans une mine. Puis.
Une seule valeur, l'argent. Se soucie-t-il de la façon de gagner cet argent ? Non, certes. Il est écrit en exergue au 5e livre de Moïse « Tu pourras exploiter l'étranger, mais pas ton frère, afin que Jéhovah te bénisse dans toutes tes actions. » Ce graphique donne une idée précise de l'infiltration juive dans le monde. D'un continent à l'autre, pareil au cancer qui ronge la chair saine, le juif multiplie ses ports d'attache. Nul idéal ne guide dans l'existence.
Pour clore les fêtes de l'anniversaire du 30e anniversaire de l'Europe, encore un défilé a lieu sur les Champs-Élysées. Tous les représentants des États européens sont présents. Et le pape a dit une prière pour l'Europe.
Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Fräulein Wremler.
Eine für ihn wertvolle Einrichtung zu rauben, sondern nur um dem ganzen deutschen Volk den Weg zu einem Arbeitsfrieden zu ebnen, der in der Zukunft allen zugute kommen wird. Denn gleichlaufend mit diesem Schritt schlugen wir auf der anderen Seite die Waffe des wirtschaftlichen Klassenkampfes aus den Händen. In einer einjährigen, in großen, abgeschlossenen Gesetzgebung haben wir nunmehr endgültig die Grundzüge eines Zustandes niedergelegt, in dem anstelle des Hausrechtes des wirtschaftlich Stärkeren die höheren Interessen der Gemeinschaft aller schaffenden Menschen ausschlaggebend geprägt werden. Allein Gott hat nicht geschaffen die deutschen Klassen. Gott hat nicht geschaffen die deutschen Stände. Gott hat nicht geschaffen die Gebilde der Vergangenheit, die unser deutsches Volk zerrissen haben. Und Gott hat am wenigsten geschafft, die Parteien. Und weil sie nicht Gott geschafft hat, war es uns möglich, mit Gott sie zu zertrümmern und zu beseitigen.
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le 30e anniversaire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.